patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi,
gosse. Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à notre émission mensuelle « La complainte du travail ». Ici Manon Brunel à l'antenne. Pour la demi-heure qu'on va passer ensemble, aujourd'hui, on va être en compagnie de Claude Apollon de la Ligue et Liberté section Estrie. Bonjour Claude.
Bonjour Manon.
Aujourd'hui, on a décidé d'aborder différents thèmes, mais on voulait le faire en lien aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est février, le mois de l'histoire des Noirs. Claude va nous en parler un peu, mais on voudrait aussi faire le lien entre le mois de l'histoire des Noirs et la discrimination, le profilage racial, pardon, et si ça a des incidences ou non sur l'emploi de ces personnes. Alors, Claude, le mois de février, comme je l'ai dit précédemment, c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par le mois de l'histoire des Noirs?
Oui. Dans le cadre des activités tenues par l'ONU, reconnues par l'ONU, février a été reconnu comme le mois des Noirs. L'apport des Noirs, leur contribution à la société canadienne québécoise et dans d'autres pays. Donc, février, mois des Noirs, c'est en honneur de Mathieu Dacosta, qui était avec Christophe Colomb, qui a participé aux découvertes d'exploration au Canada. Donc, vraiment, on essaie de faire, nous, en Estrie, une reconnaissance. Ça veut dire que reconnaître des gens d'origine ethnique à minorité visible de couleur noire qui ont fait des contributions à la société québécoise. Il y a des gens tels que Mme Rolande Petit, qui est issue de la communauté haïtienne, qui a déjà été reconnue, et plusieurs autres bâtisseurs. Dr. Raymond Duperval, aussi issu de la communauté haïtienne. Donc, ce sont des gens qui ont contribué à l'avancement de la société et qui, pour certains, sont des modèles pour la communauté noire en Estrie.
Parce que ce que tu me dis, c'est ce que je pensais aussi, c'est vraiment un mois où on souligne la contribution et l'implication des personnes noires. Moi, je trouve ça très bien, puis j'ai participé à beaucoup d'activités. En fait, j'ai commencé à participer à des activités il y a peut-être 5-6 ans, mais est-ce que tu sais autour de quelle année à peu près que ça a commencé, tout ça? Ou...
Moi, je peux te dire, depuis les années 1999-2000, il y a eu un apport qui a été plus souligné. Je ne suis pas au courant si ça existait auparavant. Selon moi, oui. Mais depuis les années 99-2000, on voit vraiment un apport qui est autre que culturel. Ça veut dire que de reconnaître tous les apports qui ont pu être amenés à la communauté noire en Estrie.
Claude, j'espère que je ne me ferai pas des ennemis avec ce que je vais dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de souligner l'implication et la contribution des Noirs dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, bien sûr, mais en même temps de leur refuser l'accès à des emplois, puis on sait que la discrimination raciale existe encore, le profilage racial existe encore. J'aimerais ça que tu nous donnes ton impression et l'opinion de la Ligue là-dessus.
C'est un bon lien que tu fais parce que certains reprochent le fait que, bon, au lieu de faire cette reconnaissance-là 12 mois par année, on le fait seulement un mois. Moi, je pense que premièrement, c'est un commencement. Le fait d'avoir des modèles de la communauté noire pour les jeunes, je pense que c'est important. Tu parlais tout à l'heure de profilage racial, je te ferai aussi le lien avec les gangs de rue. Lorsque les gens n'ont pas de modèle, ils sont plus portés à vouloir aller vers un groupe qui les reconnaît. Lorsqu'on parle du profilage racial, après ça, tu m'as parlé de discrimination économique. Moi, je pense que ça, c'est le nerf de la guerre dans toute discrimination. Parce que d'avoir une discrimination sociale, lorsque tu es dans un système comme le nôtre, lorsque tu es indépendant économiquement, tu te fais ta place. On a beau te reconnaître, te donner un festival, te donner un février, mois des Noirs, faire un buffet des nations, c'est toutes des belles activités. Mais si tu n'as pas le pouvoir économique, selon moi, la plupart des gens qui venaient nous voir, c'est ce qui font en sorte qu'ils quittent l'Estrie ou qu'ils vont vers d'autres places parce qu'ils sont discriminés économiquement. Je vais commencer par ce que tu m'as demandé au début, le profilage racial, mm-hmm. si tu es d'accord. Le profilage racial, on va s'entendre, il y a plusieurs définitions. Je vais te donner la définition qui a plus un consensus reconnu, puis tu me diras voir si tu reconnais là-dedans là, des choses là, qui te vont. Profilage racial, on appelle le profilage racial illicite, Ça se définit comme une action qui était menée par un groupe de personnes qui sont souvent en autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes pour des raisons de sécurité ou de protection du public et qui repose essentiellement sur des facteurs tels que la race, l'origine ethnique, la couleur, la religion, la langue, la condition sociale, l'âge, l'handicap, l'orientation sexuelle et les convictions politiques, dans le but d'exposer l'individu à un examen ou un traitement différentiel alors qu'il n'a pas de motif réel ou de soupçon raisonnable.
Donc, c'est une belle définition, là, mais concrètement, là?
Concrètement, je vais donner un exemple concret qui fait en sorte qu'on reconnaît qu'il y a du profilage racial fait par les autorités. Lorsqu'un individu, une personne tout simplement de couleur, va dans un parc et puis s'assied sur le dossier du banc du parc. Donc, au lieu de s'asseoir ordinairement, elle va comme s'asseoir sur le dossier. Lorsqu'on lui donne un bien d'infraction de ce seul motif que c'est une personne d'une minorité visible, on l'approche, on lui donne un biais, c'est du profilage racial. On en profite de pouvoir faire un examen sur cette personne-là. Parce que tu vas avoir deux personnes, tu vas avoir deux bancs qui vont être à peu près à 10 pieds un de l'autre. Tu vas avoir quelqu'un d'origine qui est de couleur blanche qui va t'assister de la même façon. Cette personne-là risque de ne pas avoir de biais d'infraction.
OK, mais là, on parle de marginalisation, puis c'est aussi vrai avec les itinérants, parce qu'on sait que les itinérants dans les parcs et ailleurs sont aussi, reçoivent beaucoup de constats de police pour des infractions qu'ils n'ont pas nécessairement commises, mais du fait qu'ils sont des sans-abri.
L'infraction a été commise parce que le règlement municipal interdit de cracher, on va dire, dans la rue, de traverser la rue entre deux voitures au lieu d'aller dans le piétage, les barres oranges, là, les marches piétonnées qu'on doit passer. Donc, lorsqu'on fait ces infractions-là, on est passible de recevoir un billet d'infraction. Mais lorsqu'on est racisé, et lorsqu'on a un profil sur nous, c'est automatique. On en profite. Comprenez-vous? Tu vas en bicyclette sur un trottoir.
On voit bien que les ordres, la force constabulaire et autres font un profilage ont moins de souplesse, si on peut dire. C'est l'exemple que tu disais tout à l'heure du crachat. Je présume qu'un Québécois qui crache sur le trottoir ne va pas nécessairement avoir un billet d'infraction.
Exactement.
Mais il est fort à parier qu'un itinérant ou une personne de minorité visible, comme une personne noire, pourrait avoir à ce moment-là un ticket. Mais les incidences, moi, Claude, ce qui m'intéresse aussi, je sais, ces choses-là, on en entend parler. C'est pas nouveau pour nous d'en entendre parler ce matin. C'est le profilage et discrimination versus l'emploi. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'implication et l'intégration, et tu l'as dit, il est impossible de s'impliquer complètement si on n'a pas les ressources. Et ça passe beaucoup par l'économique.
Exactement.
On sait aussi, puis c'est pas, on n'apprend rien à personne, c'est pas un secret de polichinelle, là, les emplois, là, ils sont pas facilement accessibles à ces personnes-là, pour toutes sortes de raisons, que ce soit les ordres professionnels qui décident de mettre un frein à l'obtention de certificats reconnus ou autres, ou la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des acquis, fait que souvent on retrouve ces personnes-là occupées des emplois à bas salaire. Mais est-ce que c'est encore aussi présent? Est-ce que ça s'est amélioré? Bon, on dit que depuis 2000, on voit en Estrie qu'il y a plus d'actions pour souligner le mois des Noirs, mais est-ce que dans le concret, il y a des gestes qui se posent? Est-ce qu'on voit une amélioration ou c'est toujours aussi présent?
Moi, je dirais, si on parle de profilage ou de discrimination économique, profilage, c'est plus récent. La discrimination économique, c'est une évolution. C'est quand on parlait des années 99, c'était bien avant 2001, Le groupe le plus racisé, le plus ostracisé, qui était plus victime de racisme, c'était les Noirs. Depuis 2001, on voit la communauté musulmane plus, la communauté arabe. Donc, il y a eu déjà un déplacement. Est-ce qu'au niveau de la discrimination, il y a eu de l'amélioration? C'est qu'anciennement, je t'aurais dit, des années 99, 2000, 2001, la discrimination directe existait encore. La discrimination indirecte aussi. Aujourd'hui, on n'en voit presque plus de ça. Discrimination directe, ça veut dire que de discriminer directement quelqu'un ou d'y aller indirectement par d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une discrimination qu'on appelle systémique, qui est dans le système, ce qui fait en sorte que les personnes n'ont pas accès par le système à des emplois ou à des promotions. Cette discrimination systémique-là, on la voit beaucoup pour les femmes. On voit peu de femmes qui sont PDG, présidente, directrice générale d'institutions. Parce que le système fait en sorte que le système de promotion, de par la nature du système de promotion, les femmes sont bloquées.
Mais là, tu nous parles des femmes. Est-ce que tu veux dire juste les femmes de communautés visibles ou les femmes en général?
Les femmes en général. Okay. Les femmes en général.
Parce que j'allais te dire, il n'y a pas juste les femmes des minorités visibles
non,
qui sont victimes
général.
De ça. Parfait.
Mais c'est sûr que lorsque tu te retrouves femme d'une minorité visible,
t'es doublement discriminée.
Eh oui. Puis lorsque tu es statut précaire ou pauvreté, ben là, tu es vraiment t'as la totale, comme on dit. Mm-hmm. Tu as plusieurs embûches. Tu me demandais voir aussi si il y a eu des actions pour améliorer ça. Oui. Je dois reconnaître que je prends comme exemple la ville de Sherbrooke qui a une politique d'intégration au niveau de l'emploi. On a commencé à voir les effets de ça. Moi, je dirais beaucoup plus que c'est nouveau. Il y a des acteurs qui sont vraiment qui ne parlent pas beaucoup, comme l'Université de Sherbrooke, qui est un des plus grands employeurs en Estrie, qu'eux n'ont pas de politique par rapport à ça.
Je suis contente que tu soulignes la ville parce que dans un de nos nombreux écrits, on écrit des articles à Illusion de temps en temps, on avait quand même dénoncé le fait que l'adoption de la politique ne s'était pas traduite par énormément de personnes à l'emploi. Puis dans mes derniers chiffres, il y avait peu de personnes. On visait exactement. Une centaine de personnes et il y avait 8 ou 10 employés. Plusieurs étaient à temps partiel et des emplois d'été.
Souvent.
Alors, oui. Et il faut être conscient d'une chose, là, c'est qu'on ne peut pas juste dire on adopte une politique, il faut avoir les mesures qui accompagnent la politique,
exactement.
Il faut faciliter l'emploi en même temps.
C'est un bon constat que tu fais parce que, tu vois, ce constat-là, je le ferais moi par rapport à la discrimination au Québec et au Canada, on a toutes les protections qu'il faut. Mais si les mesures ne sont pas bien mises de l'avant, les institutions sont là, les lois sont là, mais c'est dans l'application de ces lois-là que je pense qu'il y a vraiment à faire.
Bon, je pense qu'on a quand même cerné un peu ce qu'on voulait dire à nos auditeurs et auditrices. C'est effectivement qu'il y a une amélioration, il y a des politiques en place. Pardon. Mais il faut aussi mettre en application ce qu'on a produit, comme les politiques d'intégration et ces choses-là. La ville de Sherbrooke en est un exemple, mais il y a aussi l'ouverture des ordres professionnels pour l'accès à l'emploi. On sait que le gouvernement a beaucoup travaillé là-dessus. Il va falloir maintenant voir dans le pratico-pratique comment ça va se traduire au fil des prochains mois. On va aller maintenant à la pause. On va écouter une chanson de Marat Tremblay et on vous revient tout de suite après.
Oui, vous allez entendre le printemps des amandes de Marat Tremblay. Bonne écoute.
Claude.
CFLX FM 95,5 CFLX.QC www.lrc.ca.
Alors voilà, de retour avec notre invité Claude Apollon de la Ligue des droits et libertés, section Estrie. Vous savez, pour ceux qui étaient en onde tout à l'heure, on a abordé la question de l'histoire de le mois de l'histoire des Noirs, pardon, le profilage racial, la discrimination. Claude travaille à la Ligue des droits. Alors j'aimerais savoir, Claude, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes ou de demandes d'aide sur les motifs de discrimination?
Oui. Sur la discrimination, nous en avons. Plus particulièrement en rapport avec le lien de mission, c'est discrimination en emploi. La discrimination en emploi, on retrouve plusieurs plaintes. Et ces plaintes se font souvent pour des travailleurs qui viennent travailler comme chercheurs à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est des gens qui sont triés, sont choisis à travers la planète. Ils viennent ici et puis souvent, lorsque c'est le renouvellement de leur contrat, on trouve pour x, y raison une façon de ne pas renouveler le contrat. Et c'est des gens qui, il n'y a pas à dire, là, c'est vraiment des critères qui font en sorte que la personne soit reconnue. Donc c'est simple, si la personne a réussi à avoir ses points en recherche, ou c'est vraiment des critères objectifs. Donc on peut voir ça. La discrimination en emploi, on peut voir aussi, tu as bien souligné tout à l'heure, c'est la reconnaissance des diplômes. Ça, c'est un dossier qu'en 2000, on avait commencé à travailler avec l'Université de Sherbrooke. Et maintenant, il y a une ouverture des ordres dans certains ordres, tels que l'ordre des médecins et l'ordre des ingénieurs, qui sont beaucoup plus ouverts qu'il y a 10 ans.
Nous, on travaille, Illusion, on est aussi membre du Front de défense des non-syndiqués, puis on a beaucoup travaillé ou réfléchi les dernières années sur toute la question du statut des personnes qui viennent ici dans le cadre de certains travails. On a déjà abordé le travail migrant, les aides domestiques, mais on a aussi fait un constat qui n'est pas nécessairement réjouissant, c'est que quand on donne accès à des emplois, j'aime pas le mot, mais disons plus qualifiés, ça va souvent être des personnes d'Europe de l'Est, ces choses-là. Mais quand on a besoin de personnes moins qualifiées, on va aller chercher l'Afrique du Nord, l'Asie. On voit encore là quand même un enclave où est-ce qu'on confine une minorité de personnes à des emplois moins bien rémunérés, avec de moins de protection, puis qu'on conserve l'accès aux emplois mieux rémunérés à des Blancs d'origine. Les Europes de l'Est, c'est souvent, ça nous ressemble, c'est des Blancs.
Exactement. Et moi, j'irais plus loin là-dedans, parce qu'on a fait, au fil des ans, un constat que même au niveau de l'orientation, c'était ce qui était décrié par les communautés culturelles avec la minorité visible, qui disaient que, bon, regardez, lorsque mon enfant, secondaire 4, secondaire 5, essaie de choisir une orientation scolaire, on essaie toujours de l'amener vers un diplôme d'études professionnelles ou ces choses-là. C'est pas que c'est pas bien, mais ces gens-là ont accès aussi à des études supérieures. Donc, on se dit, bon, non, regarde, tu vas aller là-dedans, tu vas trouver de l'emploi, peut-être. Oui, peut-être, mais si ça ne lui convient pas, en voulant dire que ces gens-là sont plus aptes à avoir ce genre d'emploi-là. Oui, on voit encore ces préjugés, ces stéréotypes-là exister.
Les vieux préjugés du Doc Bayou, là, quand il avait dit que les Noirs n'avaient pas un cerveau, je ne me souviens pas exactement les termes, qu'il y avait un QI aussi développé que les Blancs. Là.
Bon,
ça continue de faire son chemin chez certains adeptes du Doc Bayou et qui portent ces mêmes valeurs-là. Bon, Claude, tu nous parlais tantôt de discrimination, puis tu disais que tu avais aussi des exemples de profilage.
Oui, tout simplement, c'est que tout à l'heure, on a parlé vraiment des autorités comme la police, mais il y a aussi au niveau des douanes, où est-ce qu'on voit beaucoup de profilage racial, où est-ce que vraiment les logiciels sont faits de façon à ce que telle personne, lorsque tu as telle morphologie, ces choses-là, on fait en sorte que tu sois fouillé, que tu passes au niveau aussi de...
Est-ce que c'est venu plus depuis le 11 septembre?
Exactement.
On voit un lien.
Exactement. Lorsqu'on décide, dans certains bars, de ne pas servir des clients autochtones parce qu'on les croit portés à s'enivrer et à devenir violents. Ce vieux préjugé-là que les Amérindiens...
s'enivrent plus vite ou tolèrent moins l'alcool.
Exactement. Toutes ces choses-là. Propriétaire qui pourrait demander à un étudiant chinois de vider les lieux sous prétexte qu'il expose au risque de contracter le SRASM. Je ne sais pas si tu te souviens du syndrome respiratoire aigu sévère, mais la personne n'a aucunement eu de contact avec des hôpitaux ou installations au pays associés à ce risque élevé de SRASM, tout simplement parce qu'il est d'origine asiatique. profiter.
Bien, on a vu au printemps aussi pour toute la question des travailleurs saisonniers immigrants, là, qui viennent majoritairement du Mexique. Si on se rappelle, il y avait eu la grippe H1N1 au Mexique. Et effectivement, eux autres aussi ont été victimes de discrimination. Il y a une mesure qui pouvait s'appeler une mesure de prévention, qui était tout à fait légitime, mais là, une mesure poussée à l'extrême, ça devenait presque de l'acharnement. Là, c'est que ça leur prenait des certificats, ça leur prenait des contre-expertises pour vraiment démontrer qu'ils n'étaient pas dangereux et menaçants pour la population. Pourtant, il y avait des certificats d'émis, mais ça vous prenait un deuxième certificat. On voit là souvent là, le racisme, la discrimination, la xénophobie. J'aimerais en même temps, Claude, qu'on termine peut-être là-dessus, okay, et que tu nous fasses la nuance entre, parce qu'on entend souvent des gens dire « Moi, je ne suis pas raciste, mais… »
Il y a des comportements qui pourraient être dits xénophobes.
C'est ça. Bon, bien, la xénophobie et le racisme. J'aimerais ça peut-être qu'on termine là-dessus.
Oui. Premièrement, le racisme, on voit vraiment que c'est une hiérarchie des races. C'est vraiment de penser qu'il y aurait une race supérieure à d'autres.
Donc, Hitler était raciste.
Exactement. Exemple. Exactement. C'est là que l'eugénisme a commencé, okay, de dire que vraiment, dans les gènes, il y a des races. Premièrement, c'est là la première erreur. Parce que lorsqu'on passe dans les classes et on fait une formation sur le racisme, j'étais tellement étonné que lorsque je demande combien il y a de races au monde, il y en a qui me disent c'est comme les anneaux olympiques, il y en a 5, les couleurs. Il y en a qui disent non, il y en a 15, il y en a 20, puis il y en a toujours un ou une qui dit non, il y a une race, c'est les humains. Une race d'humains, premièrement, puis après ça, il y a des cultures, des ethnies différentes. Parce qu'au niveau génétique, on est tous semblables. Donc, il y a une race, c'est les humains. Donc, le racisme, c'est vraiment une hiérarchie des races, de penser qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. La xénophobie, c'est tout simplement la peur de l'étranger.
Toute la question des accommodements raisonnables se placerait dans la xénophobie, si je comprends bien ta logique et la définition que tu nous en donnes.
L'ethnocentrisme et la xénophobie.
Bon, c'est intéressant. Ouais. Fait que pour nos auditeurs, vous voyez bien, il y a une différence entre discrimination et xénophobie. Vous êtes peut-être xénophobe, mais pas nécessairement raciste.
Exact.
Je crois qu'on va bientôt devoir terminer notre émission. Alors, Monsieur Apollon, en terminant, je vous remercie d'être venu à cette émission. J'aimerais que vous nous parliez, si vous avez des activités annoncées, profitez de notre tribune, ça serait le temps.
Oui. Premièrement, je veux remercier dans le cadre de février, mois des Noirs. Et je pourrais annoncer aussi qu'en mars, dans la semaine du 21, c'est la semaine d'élimination de la discrimination raciale. Dans cette foulée-là, nous offrons des formations concernant les accommodements raisonnables. Où est-ce qu'on en est rendu dans ces accommodements raisonnables-là? Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a changé? Donc, dans la foulée des accommodements raisonnables, nous allons faire deux formations, là. Une au RCPE, puis une qui va être annoncée grand public. Merci, Manon.
Bon, bien, à ce moment-là, merci, M. Apollon, de votre présence encore aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'on va être en onde le 30 mars prochain. Cette émission portera sur la coalition contre les hausses de tarification des services publics. Vous le savez, là, il y a eu une coalition qui s'est mise sur pied. Dans le cadre du budget, la coalition va être très présente. D'ailleurs, il y a une grosse manif le 1er avril. Malheureusement, le budget va être passé, mais quand même, on va faire un bilan de ce qui aurait été annoncé au budget et ces choses-là. Alors, soyez des nôtres à cette émission-là. J'aimerais aussi vous rappeler, parce que le 8 mars approche et qu'on n'aura pas d'émission pour faire une émission sur le sujet du 8 mars, que le 8 mars, ce sera la marche, c'est-à-dire le lancement de la marche mondiale des femmes de l'an 2010. Et c'est bien sûr la Journée internationale des femmes. On va beaucoup parler des revendications qui seront présentées dans le cadre de la marche mondiale. Il y aura certainement un lien à faire, encore une fois, avec femmes et pauvreté. On sait, hein, la situation des femmes ne s'améliore pas nécessairement à cet effet-là. J'aimerais aussi vous rappeler, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu passer, nous, Illusion Emploi, on aime ça organiser des petites rencontres d'échanges. Et dans ce contexte-là, on va organiser un dîner-causerie le 23 mars. Et ça va porter sur, j'appellerais ça les conflits générationnels, en fait, un dîner-causerie, sur les traditionnalistes, les baby-boomers, la génération X et la génération Y. Ça, comment ces gens-là peuvent cohabiter ensemble et au niveau du travail, qu'est-ce que ça a comme incidence d'avoir des comportements, des valeurs et des attitudes différents. C'est très intéressant. C'est Mme Josée Garceau de l'Université qui va nous faire part de sa recherche et qui va nous présenter le tout. Finalement, j'aimerais que vous pensiez à ceux qui voudraient revoir, entendre nos émissions, parce que nos anciennes émissions sont sur notre site Internet. Vous pouvez aller voir à www.illusionemploi.org. Et au nom de notre organisme, je vous souhaite une belle fin de journée. J'aimerais vous rappeler aussi ce que nous défendons depuis longtemps. Nos deux principes directeurs, c'est la disparité de traitement et l'exclusion des lois. Aujourd'hui, on en a eu l'exemple, la discrimination et le racisme, ce qui nous porte à finir sur ces mots. Même emploi, même condition, même droit, même protection. Merci et bonne fin de journée.